Et arrive votre tour, et il ne reste plus qu'une baguette. Vous achetez votre baguette. Et quelqu'un vous passe devant, et on peut dire, rafle la baguette, prends la baguette pour elle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, que ce soit à la boulangerie, quelqu'un vous passe devant, il reste plus qu'un article, et paf, c'est plus pour vous, c'est pour la personne. Comment est-ce que vous vous seriez senti? Eh bien, quelqu'un dans la Bible a vu une autre personne lui passer devant. Et pas pour une baguette, mais pour une question de vie ou de mort. Il s'agit de Jaïrus, et dont la fille était très malade. Et je vous invite à prendre ce passage dans l'évangile de Marc, chapitre 5, les versets 21 à 43. Un récit peut-être que beaucoup connaissent et qu'il est toujours bon de relire. Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Et je vais prier. Seigneur, notre Père, nous te remercions de nous avoir envoyé Jésus, qui est venu parmi nous pour te révéler le Père à nous, Seigneur. Merci parce qu'il révèle ton cœur, Seigneur, il révèle, Seigneur, ta disponibilité. Et je te prie, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur, et Seigneur, qu'elle agisse dans notre vie pour ta gloire, pour te faire connaître. Prépare-nous, Seigneur, et Seigneur, voilà, je me repose en toi, Seigneur, pour la délivrer. Au nom de Jésus, amen. Marc 5, 21 à 43. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai intitulé ce message « Jésus, le sauveur plus qu'un guérisseur ». Et de ce texte, il m'a ressorti cette vérité que Jésus répond à la prière de la foi. Jésus répond à la prière de la foi. On a déjà parlé de la foi ce matin. Une foi qui n'est pas inaccessible, mais une foi sincère. Jésus répond à la prière de la foi et on va se poser la question, comment se caractérise la foi? Et je vous propose de voir ça en quatre points. Eh bien, premièrement, nous verrons la prière de la foi, d'après les personnages qui sont ici. Deuxièmement, nous verrons la foi personnelle qui sauve. Troisièmement, nous verrons la foi personnelle qui ne meurt pas, mais qui persévère. Et quatrièmement, nous verrons ce qui touche plus particulièrement les parents. Jésus répond à la foi des parents pour leurs enfants. Alors, je vous propose de voir premièrement la prière de la foi. Et alors, ici, on a deux récits dont l'un est inclus dans l'autre. Et ces deux récits ont trois points communs. Le premier, c'est que deux personnes vont vers Jésus. Le deuxième, alors, avant le deuxième, dans le premier récit, c'est un père qui va vers Jésus pour amener Jésus vers sa jeune fille qui est mourante. Elle peut plus grand-chose, sa fille. Donc, c'est le père qui va amener Jésus vers sa fille et non pas sa fille qui va vers Jésus. Le deuxième récit, c'est une femme malade qui va vers Jésus pour être elle-même guérie. Deuxième point commun à ces deux récits, vous avez remarqué le chiffre 12. L'enfant a 12 ans et la femme est malade depuis 12 ans. Et si c'est là, c'est pour une raison, n'est-ce pas? Et un troisième point commun, c'est que bien sûr, Jésus va répondre aux deux requêtes et il va guérir ces deux, la femme et la fillette. Il va les guérir miraculeusement, mais il va pas s'arrêter là, il va aller plus loin en les sauvant toutes les deux, en leur donnant une vie nouvelle, en leur donnant un nouveau départ. Voilà, c'est ce qui ressort de ce récit. Donc premièrement, voyons la prière de la foi. Ce récit a démarré avec ces deux personnes qui viennent, qui veulent vraiment voir Jésus, qui le cherchent. Tout commence avec ce chef de la synagogue, Jaïrus, nommé Jaïrus. C'est un chef, hein. Un chef de la synagogue, ça veut dire des gens religieux qui sont hostiles à Jésus d'ordinaire. Et ce chef, eh bien, qu'est-ce qu'il fait là? Il va se jeter aux pieds de Jésus pour le supplier de guérir sa fille par une prière insistante. Et je vais la redire, cette prière, parce qu'on va y revenir, hein, plus tard. Je la relis, verset 23. Cette prière de Jaïrus à Jésus. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Plusieurs choses dans cette prière. On va y revenir. Est-ce que Jésus va répondre à cette prière? Est-ce qu'il va y répondre partiellement? Est-ce qu'il va y répondre très précisément, complètement? Est-ce que, effectivement, eh bien, voyons cela. Tout d'abord, relevons l'audace de ce père qui est vraiment dans la détresse. Un père qui a sa fille mourante. Ce père, il est le chef de la synagogue. Et il n'hésite pas à s'humilier devant Jésus et aussi devant ses collègues. Il va se jeter à ses pieds. Et devant très probablement aussi ses autres collègues, hein, des chefs religieux de la synagogue. Et eux, d'ordinaire, ils sont hostiles à Jésus. Jaloux de lui. Mais lui, il regarde pas aux apparences. Son cœur est bouleversé. Il se jette aux pieds de Jésus. Et puis, il va user d'audace dans sa prière. Il va prier Jésus et il va lui dire très précisément ce qu'il a à faire. Vous avez remarqué comment procéder? Viens et impose-lui les mains. Il est chef, hein, Jaïrus. Jésus aurait très bien pu lui dire doucement. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Mais c'est pas ce qu'il dit. Jésus va se rendre disponible. Il y va sur le champ. Sur le champ. Et il va éduquer la foi de cet homme. Une foi qui est balbutiante et il va faire grandir la foi de ce papa. Une foi qui est bien réelle pour faire ce qu'il a fait déjà, hein, s'humilier aux pieds de Jésus. Et Jésus va le prendre en charge. Et il va faire grandir la foi de ce papa. Là, on voit que la vraie foi, la foi tout simplement, elle est à la fois humble, s'humilier devant Jésus, et elle est aussi audacieuse quand on voit l'audace de Jaïrus. Les voilà donc partis, mais à peine partis, voilà que surgit un imprévu. Les voilà retardés par la foule qui les presse et par un contretemps qui se présente. Eh bien, voilà une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui cherche à toucher le vêtement de Jésus pour être guérie. Elle se contenterait de ça, juste arriver, se frayer un pas, se faufiler dans la foule et toucher son vêtement pour être guérie. Comment, si vous aviez été à la place de Jaïrus, auriez-vous réagi?
C'est comme la baguette de pain.
Oui. Et là, l'enjeu, il est de taille. Il s'agit de la vie ou de la mort de sa fille. Sa propre fille se meurt, pas une minute à perdre. Essayez de se frayer un chemin dans la foule qui fait obstacle. Et voilà quelqu'un avec un fort besoin qui vient les retarder. Alors Jaïrus, là, voilà de quoi le mettre à l'épreuve, et mettre à l'épreuve sa foi qui est naissante, on peut dire. Hein. Surtout s'il était dans un milieu qui critiquait Jésus. Est-ce qu'il va rester avec Jésus malgré ce contretemps? Ou est-ce qu'il va aller voir ailleurs? Le temps presse, sa fille se meurt. Est-ce qu'il va aller voir ailleurs un guérisseur renommé? Et vous, si vous aviez été à sa place, est-ce que vous seriez partir aller voir ailleurs en vous disant que Jésus ne s'occupe pas de vous? Il met trop de temps. Ou bien au contraire, est-ce que vous auriez cru et attendu patiemment sa réponse? Jésus, lui, il va rester patiemment. Pardon, Jaïrus va attendre patiemment la réponse de Jésus. Il va rester patiemment avec Jésus. Autre question, est-ce que vous auriez réagi comme Jésus? Jésus, on aurait dit surbooker, hein? Faire face à tous les besoins, et ils sont nombreux dans une foule. Est-ce que vous auriez réagi comme Jésus? Est-ce que vous vous seriez rendu disponible? Par exemple, votre fils ou votre fille, vous êtes dans votre bureau, vous travaillez sur un sujet urgent, et votre fille ou votre fils vient dans votre bureau parce qu'il veut simplement jouer avec vous dans votre bureau, alors que vous êtes en plein travail. Est-ce que vous auriez accepté de vous rendre disponible et accepté d'être interrompu parce que votre fille a des besoins, votre fils a des besoins, il a besoin que vous passiez du temps avec lui, avec elle? Jésus, bien que déjà très sollicité, eh bien, il va accepter d'être interrompu dans sa mission déjà, d'aller sauver la fille de Jaïrus. Il va se rendre disponible pour cette femme. Alors cette femme, arrêtons-nous sur cette femme. Dressons son portrait de cette femme. Le texte nous dit qu'elle a déjà entendu parler de Jésus. Pour aller vers Jésus, il faut déjà avoir entendu parler de lui. Elle a dû entendre mentionner son nom. Peut-être elle a entendu qu'il a fait des miracles. Et donc elle cherche à s'approcher de lui. Et là vous avez remarqué, elle ne cherche pas à l'approcher de face comme Jaïrus. Elle y va plutôt par derrière. Elle veut pas se faire remarquer. Elle est assez discrète. Peut-être par timidité. Et peut-être qu'elle ne se croyait pas assez digne pour approcher Jésus et se mettre en face de lui. Elle veut juste se contenter de toucher le vêtement de Jésus pour être guérie. Et ensuite, c'est bon. Elle repart une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut. Mais en même temps, cette femme, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est déterminée. Elle est déterminée et elle va réussir à approcher suffisamment Jésus pour toucher son vêtement. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle a réussi ce qu'elle voulait. Elle a touché son vêtement par derrière. Sa détermination montre une foi réelle chez cette femme, même si elle approche Jésus par derrière. Une foi réelle. Résultat, elle est guérie instantanément de sa maladie. Et elle le sait, hein. Le texte nous dit bien qu'elle a senti. Elle sait qu'elle a été guérie. Alors, eh bien, là, voilà, elle a eu ce qu'elle a obtenu et ça l'aurait bien arrangé de s'éclipser discrètement et après avoir obtenu ce qu'elle a voulu. Mais Jésus ne voit pas les choses comme ça. Il ne veut pas s'arrêter là. Et aujourd'hui, dans notre société et dans notre, pas seulement, hein, eh bien, on est dans une société du bien-être, n'est-ce pas? Et certains aspirent à un mieux-être et souvent réduisent Jésus à un guérisseur. Un guérisseur de l'âme, oui, quelqu'un qui va nous aider à mieux nous sentir à l'intérieur, au lieu de le considérer d'abord comme le rédempteur et comme leur sauveur en premier. Ou alors elles ont oublié leur premier amour. Et quand Jésus ne répond plus à leurs besoins, ou alors elles pensent que Jésus ne répond plus à leurs besoins, elles s'écartent. C'est comme si on veut le don, oui, on veut les bénédictions, mais on veut pas le donateur. On veut la bénédiction, mais on veut pas celui qui bénit. Et là, il y a un problème. Un guérisseur, il comble mes besoins du moment. Alors, on se renseigne sur les derniers ouvrages à la mode, les ouvrages de psychologie hein, qui viennent de sortir, chrétiens ou pas. Il y a des très bons livres chrétiens. Il faut quand même faire le choix. Mais voilà, on cherche toujours la psychologie moderne. Hein, on cherche à une introspection, on cherche à se comprendre soi-même. Et oui, c'est bien, mais la psychologie moderne, elle met le doigt sur le problème, mais elle ne donne pas la solution. Alors qu'un rédempteur, lui, il va orienter ma vie dans la durée. Un guérisseur, quand est-ce qu'on cherche un guérisseur? Pour me servir, pour servir mes besoins immédiats, pour servir mon petit moi. Un rédempteur m'appelle à me repentir et à me tourner vers lui et à le suivre et à devenir mon maître pour que je sois son disciple, pour le suivre dans une relation aimante et durable parce qu'il m'a montré tant d'amour. Alors Jésus, eh bien, il ne veut pas en rester là. Bien sûr qu'il n'est pas resté indifférent à la souffrance physique de cette femme et il l'a guérie parce qu'elle a démontré une foi certaine, une détermination. Mais Jésus avait en vue quelque chose de meilleur pour elle, meilleur que sa guérison. Il voulait le salut de son âme et il va la mettre à l'épreuve, il va l'éprouver. Voyons mon deuxième point, la foi personnelle qui sauve. Jésus regarde autour de lui. Après avoir demandé qui a touché ses vêtements. Question qui tombe sous le sens à ses disciples, puisque Jésus, il est pressé de toutes parts, il y a une foule autour de lui. Et Jésus, il pose une question, qui a touché ses vêtements? Et il sait très bien qu'il a touché, bien sûr. Mais pourquoi pose-t-il cette question? Eh bien, pour pousser la femme à sortir d'elle-même, pour la pousser dans ses retranchements. Certainement qu'elle était très timide, cette femme. Mais Jésus pose cette question à cette femme pour la pousser à se faire connaître à lui et aussi à toute la foule. Imaginons-nous la scène, il y a une foule autour d'eux. Hein, et il se passe quelque chose auquel toute la foule assiste. Jésus veut pousser la femme à se faire connaître à lui et à toute la foule. Alors la voilà au pied de Jésus, comme Jaïrus. Non pas derrière lui cette fois, mais en face de lui. Et le texte nous dit qu'elle lui dit toute la vérité. Alors certainement qu'elle était effrayée, hein, mais Jésus va la rassurer. Elle parle à Jésus, elle lui dit toute la vérité. Elle ne peut plus se cacher, elle se voit découverte. Et elle parle aussi devant tout le peuple. Comme le passage parallèle, c'est en Luc, chapitre 8, verset 47, donne bien cette précision. Devant tout le peuple, elle parle. Alors Jésus, qu'est-ce qu'on peut en tirer en ce qui concerne la foi? Jésus, eh bien, s'attend à ce que la vraie foi ne passe pas inaperçue. Dans quel but? Eh bien, dans le but que les gens le connaissent, bien sûr. Il veut se faire connaître, bien sûr. Dans le but que les gens le connaissent et qu'ils rendent gloire à Dieu. Et pas seulement, c'est aussi dans le but que le témoignage, eh bien, bénisse la personne qui témoigne. Quand on témoigne aux autres, quand on témoigne de sa foi, on est béni, on reçoit une bénédiction. Et c'est ce qui va se passer pour cette femme. C'est ce qui a déjà commencé à se passer. Dans le but aussi le but de donner gloire à Dieu et le but, eh bien, de bénir celui ou celle qui veut bien témoigner. La vraie foi en Jésus, la foi qui sauve, eh bien, elle passe, quand on a la foi, on va confesser Jésus. Elle passe par confesser Christ. Autrement dit, le déclarer publiquement. Ce que redit l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 4, verset 15, et dans la version NEG, je lis ce verset. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Le témoignage. Et aussi en 2 Corinthiens 4, 13. Voici ce que Paul dit. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. La foi, elle va témoigner, elle va pas rester. La foi ne peut pas, elle ne peut même pas rester enfermée. Elle va s'exprimer, elle va témoigner de qui est Jésus. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand on croit, on parle, on va témoigner de Jésus autour de nous. Alors qu'est-ce qui se passe là? La femme, elle a parlé. Elle a parlé à Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Elle a même, on peut parler d'une confession de foi un peu forcée. Hein. Jésus, il lui a forcé la main, n'est-ce pas? Il l'a encouragé en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus ne lui dit pas « ta foi t'a guéri ». Verset 34, il lui dit « ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal ». La femme, elle a cru. La preuve qu'elle a cru, c'est qu'elle a parlé, même si elle y a été poussée. Résultat, eh bien, Jésus lui donne dans l'ordre, il lui donne le salut, il lui donne la paix qui découle de l'assurance du salut, et il lui donne ce qu'elle attendait, la guérison. Quelle bénédiction elle a reçue en retour de son témoignage. Quelle bénédiction. Elle a eu plus que la simple guérison, n'est-ce pas? On ne s'approche pas de Jésus par la foi sans que lui-même le sache. Même si c'est par derrière, même si c'est discrètement. Et c'est souvent, n'est-ce pas, dans le secret de notre chambre ou de notre cœur que, eh bien, c'est là qu'on donne notre vie à Jésus, n'est-ce pas? Même si c'est discrètement. Mais ça ne doit pas rester non plus dans le secret. On ne s'approche pas de Jésus par la foi sans que Jésus lui-même le sache. On ne s'approche pas de Jésus par la foi sans le déclarer publiquement, sans que les autres le sachent. On ne s'approche pas de Jésus par la foi sans qu'il nous bénisse en retour et sans que soi-même on sache qu'on a été béni. On sait qu'on est béni. Quand on, voilà, quand ça déborde, quand on laisse tout simplement sa vie s'exprimer en nous. On le sait. Ce que Dieu fait dans notre vie. Alors, peut-être, vous vous dites, moi je suis pas évangéliste. Peut-être que pour ce qui est confesser publiquement le Christ, vous ne vous sentez pas l'âme d'un évangéliste et en France, n'est-ce pas, c'est, oui, on peut dire c'est difficile. Quand vous témoignez, vous parlez de Christ, vous passez pour un extraterrestre. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des extraterrestres. Parce que nous avons, n'est-ce pas, accepté le Seigneur. Et peut-être vous vous dites, peut-être vous avez déjà été échaudé. Peut-être dans votre famille, peut-être dans votre travail. Quelqu'un qui vous a pas pris au sérieux, qui s'est moqué de vous, ou qui a été même, on peut dire, agressif. Et vous vous êtes dit plus jamais ça. Est-ce que ça vous est arrivé? C'est pas toujours facile, effectivement, d'annoncer l'évangile. Mais il y a une chose que nous pouvons dire, il y a une chose que nous pouvons confesser. C'est dire notre témoignage. La femme, elle a dit son témoignage devant tout le monde. Notre témoignage de conversion personnelle est forcément, n'est-ce pas? Forcément. Jésus est dedans. C'est lui qui a rendu la chose possible. Témoignage de ce que Jésus a fait dans votre, dans notre vie. Et un témoignage, c'est la vérité. Voilà ce qui m'est arrivé. Et ça, personne ne devrait le contester. Alors, voilà. Et le terrain est mieux préparé que d'annoncer de la doctrine, même si parfois, oui, hein, avec certaines personnes, il est bon d'échanger et de rentrer dans la doctrine. Mais en tout cas, eh bien, notre témoignage, c'est notre vécu, c'est notre histoire. Chacun, nous avons une histoire. Et Jésus a poussé la femme à donner son témoignage devant tous. Et effectivement, vous vous rappelez, enfin, ce que dit le texte, cette femme, elle avait déjà entendu parler de Jésus. Donc, il faut que ça continue. Il faut que elle, qui a reçu Jésus, qui a reçu sa guérison, son salut, c'est à elle maintenant de parler aux autres. C'est une véritable chaîne de transmission, n'est-ce pas? Jésus veut que la chaîne de transmission se perpétue. Et pour cela, eh bien, même si on se sent pas toujours à la hauteur, laissons-le simplement agir dans notre vie. Et pour vous qui êtes parents, n'hésitez pas à donner votre témoignage de conversion à vos enfants. C'est votre histoire. Ils sont vos plus proches prochains. Et ça ne peut que les toucher. Voilà donc. Cette femme qui est guérie. Mais pendant ce temps, Jaïrus. Et pendant ce temps, sa fille. Où ça en est, tout ça? Le temps a passé. Eh bien, pendant ce temps, l'état de la fille de Jaïrus n'a fait qu'empirer. Au point que des gens viennent annoncer à Jaïrus que sa fille est morte. Et ils lui demandent sans ménagement, hein, vous avez remarqué, de cesser d'importuner le maître. Ta fille est morte, arrête d'importuner le maître. Vous imaginez la nouvelle qui tombe sur Jaïrus. Et ils lui disent, arrête d'importuner le maître. On peut se demander si vraiment c'était le maître de ces personnes. Est-ce que Jésus était le maître de ces personnes qui parlaient de cette manière à Jaïrus? On peut en douter. On peut en douter, n'est-ce pas? Parce qu'ils, par leur manque de compassion, par leur manque d'amour. Et bon, Jésus, il a bien montré qu'il peut guérir des malades, mais tout maître qu'il est, il ne peut pas ressusciter des morts. C'est ce que pensaient ces gens qui ne croyaient pas en lui et qui pourtant l'appelaient maître. Et imaginez l'état désespéré de Jaïrus. Jaïrus, il avait été là le premier pour demander à Jésus de guérir sa fillette. Et il s'est fait doubler par une femme atteinte d'une maladie que Jésus a pris le temps de guérir et de sauver. Jaïrus, il aurait pu penser. Il aurait pu penser, mais c'est pas ce que dit le texte, il aurait pu penser, mais j'étais là avant. Pourquoi Jésus, tu n'as pas privilégié ma fille, cette fillette qui avait encore toute la vie devant elle? Cette dame, elle aurait pu attendre un peu. Tu aurais pu lui donner un rendez-vous pour une consultation un peu plus tard. Sans compter les paroles de découragement, les paroles même de mort au final qu'il a entendues autour de lui, des gens autour de lui. Mais vous avez remarqué le texte, Jésus nous dit, Jésus ne tient pas compte des paroles, de ces paroles-là, au verset 34. Jésus ne tient pas compte des paroles qui sont dites sans foi. Jésus ne tient pas compte des paroles de ceux qui l'appellent maître, mais qui ne croient pas en lui au final. Mais il répond aux prières de la foi. La foi qu'ont manifesté Jaïrus et cette femme atteinte d'une perte de sang. Et Jésus va lui dire pour réconforter Jaïrus, verset 36, et regardez comment c'est précis. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. « Crois seulement. » Et le texte parallèle, l'évangile de Luc 8:50, rajoute « Et elle sera sauvée. »« Crois seulement et elle sera sauvée. » Alors est-ce que Jaïrus, il va avoir assez de foi pour continuer et croire que Jésus peut ressusciter un mort, sa fille, elle est morte? Eh bien, à la parole de Jésus, oui. Jaïrus va continuer de faire confiance à Jésus en l'emmenant chez lui. Sa fille est morte, mais sa foi n'est pas morte. Alors voyons mon troisième point, la foi qui ne meurt pas, mais qui persévère. La foi ne meurt pas, mais elle persévère. Arrivé à la maison de Jaïrus, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit un état d'agitation extrême et des pleurs suite au décès de la fillette. Est-ce que Jaïrus aura assez de foi lorsqu'il va entendre les pleureurs se moquer de Jésus, quand il affirme que la fillette n'est pas morte, mais qu'elle dort? Eh bien, Jésus va agir. Jésus, loin de chercher le spectaculaire, il va se rendre auprès de la fillette. Il ne garde avec lui que 3 de ses disciples et les parents, monsieur et madame Jaïrus, pour respecter l'intimité familiale. Il ne va pas chercher le spectaculaire. Et oui, Jaïrus a encore assez de foi pour rester et croire contre toute espérance à l'impossible. Et là, il est question de la femme de Jaïrus, madame Jaïrus. Quel était son état à ce moment-là? Elle a certainement assisté au décès de sa fille et elle devait être aussi désespérée, n'est-ce pas? Imaginons dans quelle détresse elle était. Et c'est là que Jésus agit. Comment va-t-il agir? Eh bien, le verset 41-42 nous dit, les versets 41 et 42. Il la saisit par la main et lui dit, Talita kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Alors Jésus, il a pris son temps, hein. Et pour cause, il est le créateur, il est Dieu, il est le créateur du temps. Il sait tout. Il connaît nos lendemains et il a même permis que la fillette de Jaïrus meure. Autant Jésus a pris son temps, la résurrection de la fille de Jaïrus va être immédiate. Et est-ce que vous avez parfois l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières? Dans vos épreuves, quel chrétien ne traverse pas des épreuves? Est-ce que vous avez l'impression que le temps passe? Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire, c'est pas la peine, Jésus ne répond pas aux prières? n'y a plus d'espoir. Mais ce texte, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand il y a parfois des réponses immédiates, oui, mais parfois il faut attendre. Que l'attente, elle a un but. Qu'est-ce qu'on retire de ce texte? Eh bien, que l'attente a un but. Dans ce texte-là, le but, c'était pour faire un miracle encore plus grand que la guérison demandée par Jaïrus. Ce miracle, c'était de ressusciter la fille de Jaïrus devant tout le monde, devant toute la famille. L'attente avait un but. Et quand on passe par l'épreuve, quand ça dure, croyons que Dieu a un but qui est à sa gloire et pour le bien de tous. Raison de persévérer, n'est-ce pas? En fait, Jésus, eh bien, le but c'était de faire un miracle encore plus grand que la guérison, c'était de ressusciter la fille de Jaïrus et sous les yeux des parents. En fait, et il visait quoi? Il visait la conversion de toute la famille en leur montrant que rien ne lui est impossible car il est le Fils de Dieu. Alors oui, il a ressuscité la fille de Jaïrus. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur la fille de Jaïrus? Ben qu'elle se lève, elle marche, elle est revenue à la vie. Et imaginons-la, qui ouvre les yeux, qui voit ses parents émerveillés face à ce que Jésus a fait. Et qui plus est, elle voit Jésus. Elle voit Jésus. Et comme pour la femme qui saignait, Jésus ne s'est pas arrêté à sauver la fillette, il va même plus loin que son salut. Il a demandé, il a ordonné même, le verbe veut dire ordonner. Au verset 43, il a ordonné qu'on lui donne à manger pour lui redonner des forces. Et ça veut dire que Jésus s'occupe de toute notre personne. Le salut de notre âme et aussi notre corps. Quand nous avons besoin de force, il le sait. Et imaginez la fillette, en voyant Jésus s'occuper d'elle. Quel effet ça a dû lui faire de voir tant de soins qu'il lui apporte. Combien elle a dû lui être reconnaissante. Alors, dans cette famille, eh bien, plus rien n'était comme avant. Les relations entre Jaïrus, monsieur et madame Jaïrus, et avec leur fillette, tout a été bouleversé par Jésus. Plus rien n'était comme avant. Et certainement que le regard qu'ils se portaient les uns aux autres a dû changer. Et quand quelqu'un dans la famille se convertit, eh bien, on voit sa propre famille autrement, et certainement avec plus d'amour, parce qu'on a reçu l'amour de Dieu, et les autres vont le voir. Alors, est-ce que Jésus a répondu à la prière de Jaïrus? Vous vous rappelez la première prière du début? Je relis sa prière là, au verset 23. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Eh bien, le récit nous montre que Jésus a parfaitement exaucé cette prière. En effet, Jésus a pris la main de la fillette, il l'a sauvée en lui redonnant la vie, et ensuite il a pris les mesures nécessaires pour qu'elle marche et qu'elle continue de vivre, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Tel était le désir de Jaïrus. Jésus a tout pris en charge. Il a répondu parfaitement à la prière de Jaïrus. Alors oui, Jésus prend soin non seulement du corps, mais aussi de l'âme, de notre esprit. Et non seulement de l'âme et de l'esprit, mais aussi du corps. Voyons maintenant le quatrième point. Jésus répond à la foi des parents pour leurs enfants. Jésus n'aurait pas demandé à ce qu'on donne à manger à un cadavre. Il fallait auparavant que la fille de Jaïrus revive. Et ça, c'est vrai aussi bien pour le corps que pour l'âme. C'est très bien de raconter les histoires de la Bible aux enfants, et ils ont besoin de les entendre. Mais ils ont aussi besoin de passer par la nouvelle naissance. Et ça, c'est plutôt pour les enfants qui sont dans une famille chrétienne. Pour eux, ils ont toujours connu, et c'est très bien, les histoires de la Bible. Mais ils ont une décision à prendre aussi. Et ils ont besoin de le savoir, sans leur mettre la pression. Mais qu'ils sachent, voilà, qu'ils ont cette décision d'accepter Jésus. De connaître Jésus. C'est très bien de vouloir, comme tout parent normalement constitué, la réussite scolaire de ses enfants, pour qu'ils puissent avoir une belle situation, plus tard une belle maison, qu'ils puissent aussi fonder une famille. Ça, c'est le désir, n'est-ce pas, de tout parent, je veux dire normalement constitué, qui aime ses enfants, n'est-ce pas? Mais ça ne les sauve pas. Et la Bible dit bien que celui qui ne connaît pas Jésus est mort spirituellement à cause de son péché. Il est perdu sans Christ. Et la belle prière de Jaïrus à Jésus, eh bien, elle pourrait être celle de tout parent chrétien pour leurs enfants et que Dieu a pris plaisir à exaucer. À exaucer parfaitement pour Jaïrus. Priez-vous avec insistance pour le salut, la vie éternelle et la marche chrétienne de vos enfants. Le salut, la vie éternelle et la marche chrétienne de vos enfants. Est-ce que vous allez à Jésus pour lui demander de donner la vie éternelle à vos enfants? Avec autant d'empressement, d'insistance et de foi persévérante que Jaïrus est allé voir Jésus pour sa fille. Parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort éternelle, celle de la conversion. Mais quand Dieu sauve, ce n'est pas à moitié, c'est complètement, c'est parfaitement. Comment est-ce que Dieu sauve? Comment est-ce que Jésus nous sauve? Eh bien, avant la résurrection de sa fille, Jaïrus, il aurait très bien pu penser que cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans a été guérie à la place de sa fille âgée de 12 ans. Il aurait pu penser cela, n'est-ce pas? Mais c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui non seulement a pris la place de la femme atteinte de la perte de sang, mais aussi la place de la fillette et aussi notre place à tous, lorsqu'il a accepté de souffrir lui-même en mourant sur la croix. Celui qui a stoppé l'hémorragie chez cette femme, il a laissé couler son propre sang pour nous sauver de nos péchés. Et celui qui a été capable de ressusciter une fillette, il est lui-même ressuscité 3 jours après. Alors, en parlant à la maison, même avant l'école du dimanche, eh bien, l'enfant saura dès son plus jeune âge qui est Jésus, que le Christ est mort et ressuscité pour lui aussi, et qu'il a une réponse à lui donner. Et de même que Jésus, il a guéri instantanément et sauvé la femme et la fillette, eh bien, il sauve instantanément celui ou celle qui place sa confiance en lui. C'est 100%. Quelqu'un a dit qu'un enfant sauvé, c'est toute une vie sauvée. Et il y a des témoignages d'hommes, de femmes de Dieu qui se sont convertis très jeunes, de très jeunes enfants. Et ça a formé des hommes, des femmes de Dieu, des missionnaires. Voilà un encouragement à transmettre l'évangile aux enfants, à leur faire connaître Jésus. Et vous avez remarqué, de même que Christ a eu souci qu'on donne à manger à la jeune fille revenue à la vie, eh bien il a souci que les enfants aient leur nourriture spirituelle quotidienne. D'où l'importance d'avoir des temps bibliques quotidiens avec les enfants, n'est-ce pas? C'est le même principe. Si on mange pas, notre corps devient faible. Et si on ne nourrit pas notre âme avec la parole de Dieu, on devient plus faible face à la tentation. Et que dire, que faire si Jésus ne semble pas répondre tout de suite à nos prières pour nos enfants? On prie, hein, avec ma femme, on prie pour un retour pour l'une et une conversion pour l'autre, pour nos enfants qui sont âgés de la trentaine. Et chaque jour, on prie. Et je crois que chacune de nos prières, chaque jour, Dieu les entend. Aucune ne passe inaperçue. On raconte l'histoire de cette femme qui a prié toute sa vie sans relâche pour la conversion de son enfant, jusqu'à sa mort. Et ce n'est qu'après sa mort que son enfant s'est converti. Alors je dis pas que ça se passe toujours comme ça. Certainement qu'il y a des conversions qui se passent du vivant des parents. Il y a aussi des fois où d'autres ne le voient pas, n'est-ce pas? Mais croyons en tout cas qu'il entend vos prières insistantes à vous, parents, pour le salut et la vie de vos enfants. Et pour terminer, eh bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Suzanne Wesley. C'est une femme, c'est une maman qui a prié quotidiennement pour ses enfants. Et un de ses fils, peut-être ça va vous dire quelque chose, il s'appelait John Wesley. Il a été le fondateur de l'église méthodiste au XVIIIe siècle. La prière de la maman a porté du fruit. Mais ça ne s'arrête pas là. Un certain James Taylor s'est converti suite à une des prédications de John Wesley. Et son arrière-petit-fils, peut-être là aussi ça va vous dire quelque chose, Hudson Taylor, eh bien, il a été missionnaire pendant 51 ans en Chine. et il a fondé la mission à l'intérieur de la Chine. Est-ce que Madame Wesley songeait que sa prière aurait un impact aussi loin? Alors bien sûr, ça peut dépasser le cadre de cette vie ici-bas. Alors pour terminer, eh bien, reprenons cette exhortation de Jésus qui s'adresse non seulement à Jaïrus, mais à tous parents, une exhortation de croire au salut de leurs enfants. Luc 8, verset 50, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Une exhortation qui fait écho à cette autre promesse que nous avons en Actes 16, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Je vais prier. Seigneur, oui, quel Dieu incomparable tu es, Seigneur. Tu as pris chair, Seigneur, tu as souffert dans ta chair, tu comprends, Seigneur, tu comprends, tu as compassion de tous ceux qui passent par des moments difficiles. Aussi, tu te réjouis avec ceux qui se réjouissent, Seigneur. Seigneur, tu as vécu parmi les hommes, Seigneur, et tu reviens bientôt. Et Seigneur, tu n'es pas un Dieu lointain, tu es proche, Seigneur, tu comprends, tu entends. Tu entends la prière des parents, Seigneur, pour leurs enfants. Et nous te les remettons, Seigneur, tous ces enfants qui nous attristent. On aimerait tellement, Seigneur, les voir se tourner vers toi. Et Seigneur, tu sais pourquoi ils sont loin, mais rien n'est impossible à toi. Seigneur, nous croyons que tous les efforts qui ont été faits auparavant ne sont pas en vain, Seigneur. Parce que tu es fidèle, Seigneur, parce que Seigneur, ta parole s'accomplit, Seigneur. Alors donne-nous à chacun, Seigneur, d'être persévérant, d'avoir une foi persévérante, Seigneur, même si on ne voit pas les fruits dans l'immédiat. Mais Seigneur, toi, tu vois bien plus grand que nous et nous te demandons, Seigneur, voilà, de nous aider à te rester fidèle, à persévérer, Seigneur, car toi, tu es fidèle, Père. Merci pour Jésus qui est le reflet de ta personne et qui a donné sa vie pour nous. Amen. Si quelqu'un veut proposer un chant, peut-être, ou j'ai...